Bonjour à toutes, bonjour à tous, c'est Benjamin Muller pour un épisode inédit du podcast des maternelles, un épisode qui s'annonce culte, c'est simple, j'ai trois invités, c'est trois stars de la parentalité, c'est parti. Trois stars de la parentalité que je crois vous connaissez déjà avec elles. On va échanger sur les questions que se posent les parents, sur l'éducation, la charge mentale, la pression que l'on peut se mettre, mais aussi sur le couple après l'arrivée d'un enfant. Comment rester amoureux, tendre et ne pas s'engueuler nuit et jour. Bonne question, hein.
Tu vois, j'ai un coup de fil super pénible à passer la sécu, là. Et avec Lucas, sa vache, là, j'arrive pas.
Et ben, t'as qu'à lui retirer sa vache.
Nos trois invités, allez, je vous les présente maintenant. En commençant par, honneur aux hommes, le pédiatre le plus célèbre de France, à Strasbourg, où les gens se battent pour obtenir un rendez-vous chez lui. Dans toute l'Europe, on nous l'envie. Arnaud Ferzorg, bonjour.
Bonjour Benjamin.
Vous avez vu, c'est sans concession la présentation.
Ah oui, là c'est chaud, c'est chaud.
Allez, je rappelle le titre de votre dernier livre, Votre enfant de 0 à 16 ans, c'est chez Atti. À vos côtés, c'est simple, c'est la Mick Jagger des sages-femmes. Elle fait trembler les gouvernements avec ses vidéos de revendications. Joe Biden a appelé récemment Emmanuel Macron pour lui souhaiter bon courage face à la pugnacité de cette lanceuse d'alerte. Bonjour Anna Roy.
Bonjour Benjamin.
J'en ai pas rajouté, hein. On est d'accord?
À peine.
La vie rêvée du postpartum, votre dernier livre que l'on peut conseiller aux éditions Larousse. Et vous avez aussi écrit un livre à destination plutôt des filles, des jeunes filles, des adolescentes à propos des règles.
Et des garçons, et des, de tout le monde en fait.
Je commence par dire une grosse bêtise. Les règles, c'est pas une histoire de filles.
Oui, qui s'appelle Tout sur les règles chez Flammarion Jeunesse. Et un livre d'utilité publique, me semble-t-il.
Absolument, qu'on devrait rembourser, que la Sécu devrait rembourser. Et enfin, elle est l'intellectuelle de la parentalité. On retiendra trois grandes personnalités influentes sur ces sujets. Il y a eu Maria Montessori, il y a eu Françoise Dolto et il y a Marie-Pierre Arnaud. Bonjour Marie.
Bonjour Benjamin.
Ça va?
Humilité.
Je me suis dit que j'allais tous bien vous mettre en valeur,
ouais,
pour après vous poser
sympa.
Des questions débiles. Votre compte Instagram, c'est un peu un mix entre un TEDx pour parents épuisés et l'Académie Goncourt pour vos conseils lecture. Donc Marie est là. Merci à tous. C'est parti. Donc on a décidé de vous réunir tous les trois pour unir vos savoirs, vos réflexions, pour livrer les meilleurs conseils aux parents qui nous écoutent. Alors j'ai proposé à chacun d'entre vous de proposer un thème de discussion, et comme ici le patron, eh ben c'est moi, on va commencer avec le thème que j'ai choisi, c'est-à-dire la pression. Je voulais vous entendre à propos de la pression que se mettent les parents, que met la société sur les parents, la pression que l'entourage met aux parents, comment s'en affranchir pour éviter la fatigue, le burn-out, le pétage de câble. Arnaud, est-ce qu'on peut déjà commencer avec vous là-dessus? Les jeunes parents que vous voyez en consultation toute la journée, vous les sentez sous pression?
Ah, je les sens, non pas sous pression, mais ils sont au bout de leur vie, déjà, quand le bébé arrive, pratiquement. Moi, j'ai quand même un peu de recul, ça fait 40 ans que je fais de la pédiatrie, c'est plus du tout les mêmes parents. Alors, c'est pas uniquement parce qu'il y a les réseaux, Internet et tout ça, mais j'ai l'impression qu'il n'y a pas de lâcher prise. Ils voient pas qu'il y a un enfant qui est devant eux, qui va leur apprendre quelque chose, qui va les faire grandir, et ils ont envie d'être dans l'obligation de résultat. Presque l'injonction par moment, sans s'en rendre compte. La marche, l'acquisition de la propreté, il va falloir entrer à l'école, comment on va faire, il faut qu'il ait de bons résultats. Et ils se mettent la pression, et inévitablement, il y en a un qui perd, souvent c'est l'enfant, et parfois le couple.
Et ça, c'est récent?
J'arrive pas à dater.
Il y a 40 ans, c'était...
Ah, c'était moins le cas. Et puis, la structuration des familles était différente aussi. Les familles sont éclatées. Il y avait le rôle des grands-parents aussi, je pense qu'on va en parler. C'est très important, le rôle des grands-parents. Ils ont du mal à trouver leur place, maintenant, les grands-parents. Et d'ailleurs, il faut reconnaître que je suis aussi un peu responsable, dans le sens où je dis aux jeunes parents, n'oubliez pas, votre enfant vous appartient, enfin, il ne vous appartient pas, mais c'est votre enfant, c'est vous qui allez le découvrir, vous allez être dans une interaction. N'écoutez pas tous les conseils que vous allez avoir de tous les côtés, en particulier de la génération au-dessus, qui souvent sont un peu à deux balles et qui font rien que culpabiliser. Donc, tout ça rajouté, savent plus vers qui se tourner très souvent.
Et j'allais dire, on va vous donner plein de conseils, mais non, vu qu'il ne faut pas écouter les conseils. Donc on va vous donner des conseils à ne surtout pas appliquer. Anna, parlons peut-être dès la grossesse. Est-ce que toi, tu dirais, je propose qu'on se tutoie d'ailleurs pour ce podcast, hein, c'est ambiance podcast à l'américaine, amenez-moi un café, on fait un baby-foot. Anna, est-ce que tu dirais que dès la grossesse, toi tu sens que les femmes en particulier en ce moment se mettent particulièrement la pression?
Ah ben oui, ça commence dès le test de grossesse positif, et ce que disait Arnaud est très juste, c'est-à-dire qu'ils se mettent une pression dingue, déjà sur le fœtus, sur l'issue de la grossesse, sur l'accouchement, sur le postpartum. Moi, ce qui me semble, c'est qu'il y a un truc, c'est qu'ils mettent toujours l'enfant au centre de tout. Et je pense qu'en fait, ils oublient souvent un truc qui me paraît quand même essentiel, c'est qu'en fait, pour avoir un bébé heureux, un enfant heureux, un fœtus peut-être heureux, on oserait dire, il faut que les parents soient heureux. Et en fait, il ne faut pas mettre le bonheur des parents au second plan, mais le mettre au premier plan. Et s'ils sont heureux, alors l'enfant suivra.
Alors,
Et les enfants, ils savent, ils enseignent à leurs parents ce qu'il faut faire. Donc il faut que les gens se rassurent sur leurs compétences. Ils sont compétents, en fait, tout simplement parce qu'ils ont un maître d'école qui s'appelle l'enfant qui est en face d'eux.
Et alors les injonctions, elles viennent d'où?
Partout.
Parce qu'il faut qu'on se rassure. Si on a besoin de se rassurer, c'est qu'on est inquiet. On est inquiet à cause de quoi ? Moi, effectivement, j'ai l'impression que la génération de nos grands-parents se posait pas toutes les questions qu'on se pose. Et on, pour autant, nos parents et nous, on a été bien élevés. Ou alors je me trompe ?
J'en sais rien. Honnêtement, j'ai pas de réponse à la question. Il faudrait faire une analyse un peu plus poussée, mais. En tout cas, les injonctions viennent de toutes parts, oui, c'est certain.
Bon, on veut une analyse poussée, on se tourne vers Marie-Père Arnaud. Maria Montessori, qu'est-ce que vous en pensez ?
Je dirais que la seule chose qui a changé, c'est qu'on voit ce que font les autres. Et alors, je ne vais pas tout mettre sur le dos des réseaux, mais on voit. On peut voir, on peut aller regarder. On peut voir que chez machin chose, c'est hyper propre, alors que chez nous, c'est dégueulasse. On peut voir qu'elle a accouché sans péridurale, alors que c'était notre rêve et qu'on n'a pas tenu le coup. Là où avant, on avait peut-être un échange avec 3 ou 4 personnes sur ces thèmes-là, là, on a un échange avec la terre entière. Et en fait, on est obligé de se comparer, on est obligé de juger. On est devant un parvis de gens qui ont fait mieux que nous, ou en tout cas différemment. Et ça, on n'y avait pas accès avant. Et on avait, évidemment, comme on avait accès aux copains, copines, alors je parle des villages, mais parce que moi, j'ai grandi dans un village, on voyait comment ça se passait chez nos voisins. Maintenant, on voit comment ça se passe chez des gens qui n'ont pas la même vie, pas la même culture, avec lesquels qu'on n'aurait jamais dû rencontrer dans la vraie vie, en fait. Et moi, en tout cas, les injonctions que je me suis mise comme une grande toute seule, c'est en partie parce que j'allais voir ailleurs, quoi, et que j'avais la possibilité de le faire. Alors que c'est un moment où on devrait se recentrer sur nous-mêmes.
Arnaud, ça, toi, est-ce que tu ressens le pédiatre est toujours le référent ultime des parents ou parfois ils arrivent, ils sont plus médecins que toi, plus pédiatre que
alors,
toi?
Alors, j'allais le dire, j'ai eu un cas hier assez extraordinaire d'un père qui est venu, que je voyais pour la première fois. Il y avait un créneau qui s'était libéré. Il est venu avec un enfant qui avait pas loin de 12 ans. Et c'était assez extraordinaire. Si j'avais pu enregistrer, je l'aurais fait. Il m'a dit, voilà, je viens vous voir, il faudrait faire une scintigraphie à mon enfant. Il y avait un passif, il y avait un passé, il avait vu un certain nombre de médecins, il avait été sur Internet, et il s'était dit, voilà, mon enfant a des douleurs à tel endroit, de la cheville et tout, et je pense que maintenant, il faut faire d'autres examens, c'est pour ça que je viens vous voir. Et là, on est complètement dans le patient, le père ou la mère, ou parfois les grands-parents, mais plutôt les jeunes parents, qui vont sur Internet et qui arrivent déjà avec un prédiagnostic. Mon enfant est autiste. Il est autiste parce qu'il fait du tri alimentaire. Bon, asseyons-nous, nous allons en parler. Non, votre enfant n'est pas autiste. Et il y a plein de parents.
On rigole, mais c'est horrible.
Mais non,
mais c'est angoissé,
c'est monstrueux.
Ils arrivent, ils sont angoissés.
Je pense, pour aller un peu dans ce que disaient Anna et Marie, je pense que ce qui a changé, évidemment, il y a eu la structuration de la famille, il y a le travail, tout le monde travaille aussi, il y a aussi ça. Il y a 40 ans, les femmes travaillaient aussi moins. Je ne dis pas que c'était mieux, non. Mais c'est vrai que du coup, ça demande une organisation extrême au niveau du travail, de l'enfant qu'on va confier, etc., des autres figures d'attachement. Mais ce qu'il y a eu aussi, c'est l'arrivée d'Internet. Et moi, j'ai connu avant Internet, j'ai l'impression d'être un vieux pachyderme en disant ça, mais j'ai connu le monde avant Internet, et j'ai connu
c'était
le monde après. Je ne dis pas que c'était mieux avant, encore une fois, non. Mais je suppose et je pense qu'avec tous les moteurs de recherche qu'on a aujourd'hui, les gens font recherche, mon enfant, tri alimentaire, ne dort pas, c'est bon, il est autiste.
Et mon enfant mal de cheville, c'est bon,
mon enfant mal de cheville, le scanner a été fait, je coche les cases, donc maintenant c'est la scintille. Je crois que notre rôle, à nous tous, professionnels de la santé, mais pas que, journalistes, etc., c'est de faire comprendre aux parents, mais aussi à l'enfant. Parce que l'enfant, il demande que ça. Et c'est ça qui est merveilleux. Et en particulier avec la Covid qu'on est en train de vivre, qui n'est pas terminée, c'est incroyable ce que l'enfant enseigne à l'adulte. Et moi, je n'arrête pas de dire aux parents, en ce moment, quel que soit l'âge de leur enfant, même si c'est un nouveau-né, leur dire, mais est-ce que vous l'avez regardé ? Est-ce que vous l'avez observé ? Anna, elle va comprendre ce que je vais dire, qui est sage-femme. Quand je vois les parents à la maternité pour l'examen des premiers jours, je leur dis, mettez-le sur le ventre. Ah ! Faut pas le mettre sur le ventre, il va faire la mort subite. Je dis, ben oui, si je vous dis de le mettre sur le ventre, c'est pour qu'il fasse la mort subite, bien entendu. Ah oui, mon docteur, vous nous rassurez. Bon, non, mettez-le un peu sur le ventre, sur le plan de travail, sur un plan dur, pendant 3, 4, 5 minutes, plusieurs fois par jour, sous surveillance. C'est le début de l'autonomisation de l'enfant. Il vous le rendra aux multiples plus tard. Et tout de suite, les parents, quand je mets sur le ventre, veulent faire passer les bras de l'enfant devant les épaules. Anna, coche de la tête,
et
elle voit très bien ce que je veux dire. Et je leur dis, mais non, laissez le faire. Laissez les bras le long du corps. Il va apprendre à passer les bras. C'est pas encore pour maintenant, mais laissez. Vous êtes déjà dans une anticipation de votre enfant. Il a même pas 24 heures de vie. Prenez le temps, observez-le, mais ne faites pas ce que vous pensez qui est bon à faire pour lui. Observez-le, prenez ce temps-là. Et s'il commence pas à le faire dès les premiers jours de vie, eh ben après, la suite, on l'imagine. Et je pense qu'on a un rôle à jouer pour les aider un peu là-dedans.
On est un peu mécanique aussi. On oublie de regarder notre enfant, on oublie de se mettre à sa place. Anna, est-ce que la même question peut-être à propos typiquement de la péridurale? Aujourd'hui, comme on a tous accès avec Internet à toutes les informations, à des influenceuses qui vont raconter avoir accouché sans péridurale, etc., tu vas en avoir beaucoup plus qui vont arriver en disant « moi, je veux accoucher comme ci, comme ça, comme ça, et dans mon plan de grossesse, je ne veux pas de ça et de ça ».
Non, moi, je dirais qu'encore, il y a encore trop de gens qui ne se posent pas la question de ce qu'ils imaginent pour la naissance de leur enfant. Là, pour le coup, non. C'est-à-dire que je pense qu'on n'accouche pas 50 fois dans sa vie. C'est quand même un moment de l'existence des femmes qui est quand même assez important et que ça nécessite de se pencher sur la question. Donc ça, non, je ne dirais pas ça. Si les gens s'y penchent, tant mieux. Par contre, il ne faut pas se dire « j'accouche, donc j'aurai une péridurale » ou « j'accouche, alors je n'aurai pas de péridurale ». Ça, on n'en sait rien et il convient de discuter avec des professionnels et pas sur Instagram de ces questions-là. Mais oui. Voilà.
Quel conseil, Marie, alors on peut donner, une fois qu'on a fait ce constat, c'est-à-dire qu'il y a des bons côtés dans les réseaux sociaux, et on apprend plein de choses quand même.
Je rebondis une dernière fois, c'est qu'en fait, les gens, tout le point de similitude de ça, de ce que disait Arnaud, de ce que je dis moi, c'est que les gens ne se font pas confiance. En fait, ils font confiance à tout le monde, à des gens inconnus, à n'importe qui, tout sauf à eux.
C'est le titre de mon prochain livre, enfin de mon livre.
Eux, ils ont. Ouais, c'est drôle.
Qui va sortir, s'appelle Faites-vous confiance.
Mais alors que eux savent tout pour la naissance, ils savent tout pour la grossesse, ils savent tout pour les premiers temps avec leur enfance. Enfin, ils savent tout. Ouais. Faites-vous confiance.
Et alors pourquoi, Marie, si vous réfléchissez en ce moment au sujet, pourquoi on ne se fait pas confiance, les jeunes parents?
Alors je pense qu'en fait, ça rejoint vraiment ce qu'on disait, c'est-à-dire qu'on ne se fait pas confiance parce qu'il y a trop autour de nous et on se dit mais pourquoi nous, on aurait plus raison que quelqu'un qui est passé par là, quelqu'un qui a l'air de mieux s'en sortir. De la même façon qu'on peut avoir une mère très qui prend beaucoup de place et on se dit elle a raison. Mais ça peut être, comme disait Anna, un inconnu qui tout d'un coup va avoir le bon mot au bon moment et va se dire elle sait mieux que moi. Et ça, la prégnance des réseaux fait qu'on a toujours quelqu'un qui va mieux savoir ou qui va avoir l'air de mieux savoir que nous. Et on oublie qu'en fait, on a cette compétence-là. Mais parfois, et c'est là que je reviens sur les bons côtés des réseaux sociaux et de tout ce qui nous arrive, c'est que le partage d'expériences va permettre aussi de révéler ce qu'on est et ce dont on est capable. Et c'est, je parle des petites phrases qui nous choquent et qui nous disent « Ah elle a raison, c'est pas comme ça que je dois faire », mais il y a aussi des gens qui vont nous révéler à nous-mêmes. C'est-à-dire en disant « en fait, elle a raison, j'y arrive, je suis capable ». Et peut-être que j'ai entendu un petit truc ou que j'ai lu ou j'ai vu un post sur les réseaux qui va me faire dire, en fait, j'y arrive aussi. Donc, c'est vraiment très ambivalent, justement, cette présence permanente des autres. Il faut qu'on puisse en tirer, en tout cas, ce dont on a besoin et puis surtout s'en extraire pour faire nous-mêmes.
Marie, est-ce qu'au quatrième enfant, on a plus confiance en soi ou alors on peut rester toujours dans le doute et...
Vous connaissez la réponse. Moi, je crois que j'ai jamais été autant en larmes que pour mon dernier enfant. Ouais. Parce que justement, on se retrouve avec tout ce qu'on a vécu. Et à chaque grossesse, on se dit, là, c'est bon. Si j'ai un reflux, c'est bon, je sais.
Voire même, c'est le piège, le dernier.
Ouais,
on se dit,
ça.
C'est bon, je suis easy. Et en fait, on se fait bouffer.
Et en plus, le dernier, on a quand même, c'est une espèce de truc qui ne nous quittera jamais, qui est la nostalgie. Qui arrive avant même que les choses soient faites. On se dit, ça y est, c'est la dernière fois. Et en plus, on ne gère absolument pas, puisqu'évidemment, Arnaud va le dire mieux que moi, tous les enfants sont extrêmement différents. Et nous-mêmes, on a changé. On a vécu d'autres choses. On n'a pas le même état de fatigue après un premier, après un deuxième. On n'est plus la même.
Et
on n'a pas envie de refaire les mêmes erreurs. Et en même temps, on en refait d'autres. Mmh. Et puis, tant mieux, j'ai envie de dire. C'est comme ça aussi qu'on apprend.
Bon, on arrête de se mettre la pression, hein, c'est la conclusion de ce truc. Je me demande si notre émission, elle contribue pas aussi à la pression qu'on peut se mettre.
Oui.
Parce que si on nous regarde tous les jours, sans doute qu'au bout d'un moment, il y a une forme d'injonction. Je sais pas, maintenant, une fois que j'ai dit ça.
Non, mais si, mais parce que nous, on a un regard serviciel aussi, on essaye de donner un maximum de choses et que les gens fassent leur marché.
Voilà, l'idée, les gens de se servir dans les conseils qu'on va donner. Ouais.
Les gens ont l'impression qu'il faudrait tout appliquer, mais pas du tout. On applique ce qui nous semble cohérent avec notre enfant et notre vie.
Allez, on passe à un deuxième sujet, cette fois proposé par Anna Roy. On va parler du postpartum.
Comment on fait si l'enfant, il n'arrive pas à dormir ailleurs que dans le lit des parents? Parce que moi, j'ai un 120 sur 90, mais je fais des nuits et de rien, quoi.
Moi, je ne sais pas du tout, ma femme m'a quitté, donc j'ai pas ce souci.
Allez, deuxième sujet, cette fois proposé par vous, Anna Roy. Vous m'avez dit, enfin pour que je te vous vois, tu m'as dit, parlons du postpartum. J'ai l'impression qu'on en parle beaucoup en ce moment. Nous, ça fait 6 ans qu'on est dans la maison des maternelles. Ça fait 6 ans, Marie?
Ouais, ça fait 6 ans.
Ça fait 6 ans qu'on est dans la maison des maternelles. Moi, je trouve que ça fait vraiment 2 ans qu'on en parle beaucoup, en tout cas nous, dans notre émission. Est-ce que toi aussi, tu sens que les choses évoluent quand même? On en parle de plus en plus.
Oui, on en parle de plus
en
plus.
Donc ça va dans le bon sens.
Tout à fait, ça va dans le bon sens.
Alors maintenant, qu'est-ce qu'on en dit?
Eh ben, qu'est-ce qu'on en dit? On en dit que, en fait, le postpartum, ça dit une chose, c'est, on va parler des femmes, pas des coparents pour l'instant. En fait, le postpartum, c'est dire, je deviens mère. Et en fait, ce champ du « je deviens mère » n'a pas été pensé ni sur le plan politique, ni sur le plan de la pensée tout court. Et donc, en fait, c'est pour ça que c'est une telle déflagration et tellement important comme sujet. Et en fait, on est au tout début de l'exploration de ce sujet, et je m'en réjouis, parce que du coup, il y a beaucoup de travail à faire, et j'aime bien explorer ça.
Et alors, le message à faire passer, est-ce que le premier, c'est pas de dire « attention, c'est dur ».
En fait, c'est une expérience dans la vie, une des plus importantes que vous aurez à faire dans votre vie. Et comme toute expérience dans la vie, il y a des trucs ultra positifs et des trucs ultra négatifs. La dépeindre comme une période uniquement négative n'a pas de sens, et la dépeindre comme avec que des trucs positifs n'a pas de sens non plus. Il faut dire aux gens que on s'inscrit dans un temps long. Moi, je dis toujours que le postpartum dure 3 ans, mais je persiste et je signe, ça dure 3 ans. Et pendant ces 3 ans-là, ben ouais, vous allez peut-être en chier, ouais. Mais comme nous toutes, moi j'en ai chié, hein. Alors moi, je le dis. Pourquoi je le dis ? Parce que si même la sage-femme en chie, alors c'est qu'on a le droit d'en chier aussi, quoi. Voilà. C'est pas par égocentrisme.
Et alors, l'idée serait pas de passer du « devenir mère est la plus belle des choses au monde et c'est le monde des bisounours » à « d'un coup, ça devient l'horreur ». C'est ça que vous voulez dire ? Faut pas non plus tomber dans l'extrême inverse et dire que tout est dur.
Non, ça n'a pas de sens. Ouais. Il faut avoir une vision juste des choses. Il y a des gens qui ont des expériences très positives, d'autres très négatives, d'autres positives et négatives dans la même journée. Ouais. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il faut le penser intellectuellement et le penser politiquement. Et comment on fait pour que la vie soit plus simple ?
Les femmes que vous allez voir là en libéral qui viennent d'accoucher, qui ont accouché, je sais pas, il y a 15 jours, 3 semaines, 1 mois, etc., est-ce qu'elles étaient prêtes au postpartum qu'elles vivent, ou vous sentez encore que pour certaines, c'est le grand mystère ?
Aucune n'est préparée, même celles qui sont très informées. Moi, j'étais ultra informée, ouais. Je faisais ça toute la journée, j'avais lu tout, et je me suis pris la claque de ma vie. C'est-à-dire, est-ce qu'on peut se préparer ? On peut s'informer, mais je ne crois pas qu'on puisse se préparer. On se prend de toute façon une claque d'intensité et de type variable, mais on se prend une claque. Je viens de voir passer une souris, je suis désolée, ça m'a déconcentrée.
Une souris ?
Oui.
Effectivement.
Derrière, ça va aller.
Elle est juste
sous le
meuble. À côté de ta chaise.
Et une petite souris.
Je sais pas, elle est en train de monter.
Mais c'est, alors les souris, c'est mignon. Hein. C'est les rats plutôt qui sont crados.
Non, bon, c'est une souris.
C'est une souris.
Allez. Bon, Anna, arrête avec la télécommande de la souris.
J'adore. Bon, bah Arnaud, on va entre deux petits passages de la souris. Qu'est-ce que toi, ça t'inspire le postpartum ? Parce que toi, bah, le pédiatre, c'est aussi le. Toi, tu vois les jeunes parents, les femmes qui viennent d'accoucher, qui arrivent en couple.
Alors, le postpartum, ce qu'il y a dedans, c'est il y a la femme, comme disait Anna, bien sûr, mais alors il y a le rôle du père. C'est vachement important. Et c'est vrai qu'en quelques décennies, j'ai vu l'évolution des pères qui sont beaucoup plus disponibles. Et ça, c'est vraiment à souligner. Je vois des pères qui on a presque l'impression que c'est eux qui ont accouché. Et c'est pas mal parce qu'ils s'investissent beaucoup, ils font comme ils peuvent. C'est pas toujours facile. Parfois, ils en font trop aussi. Mais bon, je trouve que
c'est pas
mal. On
peut s'arrêter là-dessus une seconde.
Oui.
Il y a des pères qui en font trop, qui laissent pas de place à la mère, etc.
Moi, par exemple.
Toi ?
Non, je plaisante.
Ça, t'étais comme ça ?
Mais étant pédiatre, sans m'en rendre compte, j'ai pris une place un peu quelque part parce qu'il y avait des gestes que je savais faire. Je savais langer un bébé, je savais le changer, je savais faire les soins du cordon, je savais tout faire finalement. Et au fond, quand notre premier bébé est arrivé à l'époque, puis le deuxième, puis on a eu 4 enfants, c'était naturel et je me disais, bah, comme ça je montre à ma femme. Mais je ne me rendais pas compte à ce moment-là que finalement, je lui laissais peut-être pas la place aussi. Alors que c'était complètement naturel pour moi. C'est pas évident. Bon, là, je referme la parenthèse.
Côté,
parce
pédiatre.
Que, oui, je suis
moi,
pédiatre.
Si j'étais marié avec une pédiatre, tu la laisserais faire.
Mais tout de même, c'est important. Eh bien, il y a des papas qui, parfois, se sont tellement surinvestis pendant la grossesse. Tellement surinvestis pendant la grossesse. Parce que le bébé, on le voit pas. OK, il y a l'échographie 3D, il y a tout ça, il y a les prélèvements, machin. Mais le jour où le bébé est là, tout le monde s'effondre. Et le premier qui s'effondre, en général, c'est le papa. Il avait le téléphone, il avait tout prévu d'appeler la terre entière. Il s'effondre, il pleure, il n'y a plus personne, walou. Et on doit presque s'occuper de lui. Et d'ailleurs, moi, je vois en tant que pédiatre-réanimateur, quand on a une urgence et que la maman a une césarienne, un code rouge ou autre, le papa, je le fais venir. C'est très important, il a un rôle important parce qu'il faut qu'il voit ce qu'on va faire si on a besoin de réanimer un bébé et tout ça pour éviter les problèmes par la suite, qu'on lui ait caché quelque chose ou autre. Eh bien, une fois sur deux, il va un peu tourner de l'œil. Ah bah, il y a un tel surinvestissement que. Mais c'est normal, c'est normal. Et que du coup, bah, il faut aussi apprendre à gérer le papa et je trouve que c'est pas mal.
On est des petites choses. Hein.
Mais c'est plutôt dans le bon sens. Tout ça, ça va dans le bon sens.
Ouais, l'investissement des pères va dans le bon sens.
Ouais.
Marie, est-ce que selon toi, ton expérience, qui commence à être grande dans ce sujet, est-ce que tout le monde passe par un postpartum traumatisant ? Je ne sais pas si c'est le mot, en tout cas.
Non, je pense que c'est une période de vie. Et Anna l'a très bien dit, on ne peut pas se préparer parce que, en fait, c'est un passage nécessaire comme on passe de l'enfant à l'adolescent et de l'adolescence à l'âge adulte. Ceux qui choisissent d'être parents se rajoutent juste une étape de vie. Et cette étape de vie, elle prend du temps parce qu'il faut qu'on se construise. Et on a l'impression que l'arrivée du bébé fait de nous des parents. Et c'est absolument faux. L'arrivée d'un bébé déconstruit absolument tout ce qu'on avait. On fait table rase de tout physiquement. moralement, on est probablement plus proche de la serpillère et de la chaussette que d'un être humain. Et il faut reconstruire, et il se passe de manière plus ou moins douloureuse, selon qu'on soit soutenu, qu'on s'y soit préparé. Et puis, l'accompagnement du coparent, notre bébé, ses éventuelles pathologies, ça prend plus ou moins de temps parce qu'en fait, on construit avec ce qu'on va avoir comme carte en main à ce moment-là, selon ce qu'on a vécu, comment nos parents ont été. Et je pense que ce n'est pas nécessairement douloureux, mais c'est forcément un chamboulement parce qu'on devient encore une fois quelqu'un d'autre. Avec un bébé, deux bébés, trois bébés, quatre bébés qui sont différents. Et on devient forcément un autre parent. Et moi, ça a été douloureux, mais comme pour tout le monde, parce qu'en fait, je me suis retrouvée moche, un ventre qui pend, des douleurs partout, et des gamins que je sais même pas quoi en faire. Et est-ce que j'ai voulu ça? Et après, tu reconstruis. Mais en fait, c'est tellement violent, en tout cas le premier postpartum, parce que tu l'as jamais vu venir comme ça. Et il faut reconstruire brique après brique. Et là, si t'es pas soutenu, là, si t'as pas un conjoint qui tient un tout petit peu la route et si tu fais pas équipe avec le reste de la terre entière, t'es foutu.
Le mythe de l'instinct maternel a fait du mal aussi, non? Alors là, c'est bien. Je crois que maintenant, il y a un consensus pour dire que l'instinct maternel n'existe pas. Mais ça a fait du mal, je pense, à toutes les générations de mères.
Ah, vraiment? Et moi, je me souviens d'avoir été à la maternité. Je me disais, bon, bah, voilà. Oui. C'est fait. En fait, moi.
T'as pas le truc des films hollywoodiens,
du tout. Et c'est fait. Et qu'est-ce que j'en fais, en fait? Parce que bon, bah, on va lui donner à manger, on va lui changer la couche, mais en fait, enfin, c'est nul. Enfin, tu vois, tu t'attends à une espèce d'un
truc mécanique. Oui, mécanique. Arnaud, on est mécanique.
Et après, bah, petit à petit, ça se construit. Mais je pense qu'il y a des gens, pour le coup, par contre, qui arrivent complètement à ressentir un élan d'amour. Et moi, c'est pas que je l'ai pas ressenti. C'est plutôt la merveille de la chose qui arrive, qui m'arrive à moi, de voir un être qui te regarde avec des yeux, t'as l'impression qu'il a déjà eu 1000 vies, et il arrive dans tes bras, ça c'est merveilleux. Mais c'est pas mon relationnel avec lui, c'est le fait que ça m'arrive à moi, ce truc-là, quoi. Je suis pas du tout claire. Mais
c'est très clair.
C'est plutôt l'espèce d'universalité de la chose que je trouvais émouvante.
Anna, est-ce qu'on a déjà parlé de l'instinct maternel ensemble?
Je crois pas.
Qu'est-ce que ça t'inspire
Bah, ça n'existe pas, déjà, c'est clair. L'instinct, c'est une impulsion automatique et innée, donc ça n'a pas lieu d'être, ça ne peut pas exister, l'instinct maternel. Peut-être qu'il y a un instinct du petit sur ses parents, en tout cas sur ses premières figures d'attachement, ça j'y crois plus volontiers. En tout cas, non, il n'y a pas d'instinct. Il y a effectivement cet être qui a eu 1000 vies, on le voit, le regard des nouveau-nés, on peut s'y perdre tellement c'est profond et hallucinant. Et il vient souvent déclencher une réaction d'amour, mais que les gens se détendent. Si cette réaction d'amour arrive dans une heure, ou dans quatre, ou dans 6 jours, ou 5 semaines... Peu importe, ils ont toute la vie devant eux, donc il faut que les gens soient détendus. Mais souvent, les femmes sont déçues de leurs émotions. Les pères, eux, effectivement, comme disait, les mecs sont pliés quoi, en quatre en salle d'accouchement. Mais les nanas, des fois, elles sont tellement crevées par l'accouchement et tout qu'elles sont là, attends, wow.
Je m'attendais à... Bah, là aussi, on en revient à la pression. Elles se mettent une pression pour être heureuses tout de suite.
Oui, et puis surtout, elles sont crevées physiquement. Quoi. Ouais. Le père, lui, il se prend ça en pleine face, mais il est plus ou moins frais quand même. La nana, non.
Et puis, il va rentrer dormir à la maison, a priori, et il va... Enfin, sauf quand ils peuvent rester. Parlons des couples, Anna. Parce que qui dit postpartum dit, bon, c'est les grands bouleversements dans les couples. Quels conseils on peut donner pour que ça se passe le mieux possible? Comme disait Marie un petit peu, il faut être solide. C'est compliqué en trois phrases.
Rigole, ça commence bien.
En tout cas, il ne faut pas non plus faire trop peur aux femmes enceintes qui nous écouteraient en se disant, ah mon Dieu, mon couple, bah, non.
Non, il ne faut pas leur faire peur, mais il faut leur donner les chiffres qui existent. C'est le nombre de séparations après la naissance d'un enfant.
98% des couples se séparent.
Non, après non, c'est majeur quand même. En France, on a quand même un couple sur deux qui se sépare. Alors on se dit toujours, moi, et en tant que sage-femme, je me disais, c'est les autres, c'est pas moi. Ouais, enfin, y a, en tout cas, ça déstabilise. Si vous voulez, c'est une épreuve du couple. Mais en même temps, c'est la chose la plus belle qui puisse arriver à un couple. Mais si on se trompe de programme de machine à laver, c'est un peu comme un pull en cachemire, on le met dans la machine à laver, on voit comment il ressort selon le programme qu'on a mis. Mais si on se plante de programme, bah, c'est terminé, le pull en cachemire, il est tac, et c'est la séparation de divorce.
En parlant de cachemire, Arnaud, vous, dans les consultations, quand les deux parents viennent, vous devez en voir des embrouilles. Vous devez voir les différences entre le père et la mère.
Ah oui, alors moi, il y a un moment merveilleux que j'adore. En particulier, justement, on parle de cachemire, mais ça n'a rien à voir avec le cachemire, mais bon. C'est le moment, et je reviens là-dessus, où on fait l'examen du premier jour, enfin des 24 ou 48 premières heures du bébé à la maternité. On a en général les deux parents, de part et d'autre, le papa, la maman, ou les deux parents. Et c'est un moment très intense, parce que l'accouchement est derrière, mais on est dans le début du postpartum, on est dans le début du lâchage, ou pas du lâchage, des injonctions. Il faut reproduire, la maman reproduire ce qu'elle a connu dans sa famille, la pression de la famille, les grands-parents qui vont arriver, qui viennent de naître, parce qu'il y a plein de gens qui viennent de naître, des oncles, des tantes, des frères, tout ce qu'on veut. Et là, il y a toujours quelque chose d'extraordinaire qui se passe. J'ai le bébé devant moi, déshabillé, je vais l'examiner. J'ai à ma droite un parent, à ma gauche un autre parent. Et je pose la question, qui est toujours la même, même si je sais déjà un peu avant. Je dis, alors, comment vous faites? Comment vous l'alimentez? Et là, j'ai toujours la même réponse d'une maman. Ah docteur, j'aimerais bien commencer à essayer à l'allaiter. J'aimerais bien commencer à essayer à l'allaiter. On est déjà quelqu'un qui est perdu, qui se fait pas confiance et qui se dit, il faut que je sois une bonne mère, il faut que ceci, cela, je pense que je vais peut-être pas y arriver, mais... Et toujours, je me tourne vers la maman ou le papa en disant, bah non, vous allez allaiter et vous allez voir, ça va se passer très bien. Et là, je regarde le papa. Et c'est très amusant parce que on sent, le regard est extrêmement important. Et après, dans les consultations, on le voit, hein, Anna, on le voit. Quand on parle à l'un, on regarde l'autre, parfois. C'est très important parce que le regard peut dire le contraire. Ou qu'ils sont peut-être pas forcément d'accord entre eux. Ou tout simplement, ils n'en ont pas parlé. Ils n'en ont pas parlé. Parce que ces 9 mois sont passés à toute blinde. Il y a eu des angoisses, des questionnements, des machins, des examens.
Ou de la légèreté, d'ailleurs. On peut vivre la grossesse comme un épisode léger.
Mais complètement, complètement léger. Mais des sujets comme ça qui, tout d'un coup, boum, vous tombent dessus comme un Spoutnik. Ah oui, tiens, on n'avait pas pensé. Et c'est très intéressant, ouais. Ça.
Anna, ça vous conseillez aux femmes enceintes de parler de ces sujets en couple? Parce qu'il faut le faire avant, parce qu'après, on est fatigué.
Bon, c'est vrai qu'il faut parler de tout, oui. Il faut en tout cas prendre l'habitude de parler. C'est vrai qu'on ne peut plus ne se contenter de parler de ses goûts musicaux. Il faut quand même parler des choses importantes, des sujets régaliens de la famille.
Non, mais ça paraît tout con comme conseil, mais en fait, c'est majeur.
Oui, c'est majeur parce qu'en fait, il y a un côté business dans la famille. Les gens n'aiment pas que je dise ça parce que c'est comptable, mais il y a un côté, on va gérer à deux une entreprise, quoi, qui s'appelle la famille. Et il faut quand même être d'accord quand on s'associe à deux pour créer une entreprise, il faut être d'accord sur un certain nombre de sujets. Et donc, il faut se poser les questions. Donc, moi, je dis aux parents, bien sûr, il va falloir parler, sinon, on s'en sort pas. Mais c'est drôle, c'est que souvent, on est témoin de disputes et de crispations. Et donc, on est là. Alors, souvent, ils nous veulent arbitres. Donc, ils disent, alors, Anna, alors. Ouais. Alors, qu'est-ce que vous racontez?
Et comment tu fais quand c'est comme ça?
Ouh, alors là.
La patate chaude, démerdez-vous.
J'essaie. Quand la réponse est évidente, je n'hésite pas à la donner, mais enfin, des fois, je suis là, bon, je sais pas.
Marie, quand on a 4 enfants, là, on est plus. C'est une grosse entreprise, là.
Et qu'on est pas
si on prend l'image.
Et on s'est mariés après nos 4 enfants, comme quoi.
Ça, c'est bien, ça, oui.
C'est pas mal, ça.
Ouais, c'est pas mal.
Ah, pas mal.
Moi, j'ai juste 2-3 conseils. C'est parler, effectivement, et prendre l'habitude de parler bien avant d'avoir des enfants pour que ça soit un automatisme et que quand on commence à parler avec un ton un peu agacé parce qu'on est au bout du rôle, eh ben, l'autre le prend pas mal. C'est-à-dire avoir l'habitude de fonctionner avec différentes humeurs. Deuxième conseil, ne pas se séparer et ne pas prendre de décision quand on est fatigué. Parce que je pense que j'ai voulu quitter mon mec 1000 fois en étant crevée. Mais parce qu'en fait, on n'a plus du tout de raison. Et je le dis avec d'autant plus de légèreté que ça n'est pas arrivé. Mais parce qu'en fait, on se dit, il n'y a plus de solution, je m'en sors plus de rien et ça sera peut-être plus simple si je suis toute seule et que je n'ai pas les gosses une semaine sur... Ben voilà, un truc complètement dément, quoi. Et surtout aussi, prenez soin de vous, vous-même. Avant de vouloir que votre couple aille bien, prenez soin de vous. Et je l'ai vu dans le postpartum et dans les premières années de mes enfants. Ça peut pas aller bien dans son couple si soi-même, on n'a pas pris de temps pour soi. C'est-à-dire qu'on peut pas avoir un... On ne peut pas parler bien à l'autre si on ne se parle pas bien soi-même. On ne peut pas être bien, et ça vaut aussi pour, avec les enfants, bien entendu.
Et c'est prendre soin de soi et prendre du temps pour soi.
Oui, prendre du temps pour soi tout seul, d'aller marcher toute seule sans rien entendre, sans que personne nous cause, sans entendre les problèmes de l'autre. Et pas être dans une... Alors là, je vais te rejoindre dans le côté entreprise, pas avoir une gestion comptable des choses. Ça, c'est hyper dur.
Ah, c'est-à-dire, j'ai fait un peu plus que toi.
Et de ne pas se dire, ah bah, il ne se rend pas compte de tout ce que j'ai fait. Ouais. Parce que ça, c'est
dépend.
Mais tout le monde le fait. Moi, la première.
La comptabilité, c'est très bien. Mais il faut le faire à froid.
C'est ça.
Autour d'une table, voilà. Au cours d'un conseil de défense. Il ne faut pas le faire à chaud quand on est vénère comme tonnerre.
Exactement. Il faut poser les choses en disant, moi j'ai l'impression que je fais trop par rapport à ce que je peux gérer. Ouais. Peut-être qu'il y a des choses que tu peux prendre en charge, mais en parler complètement de manière détachée, pas mettre d'affect.
Ah ouais.
Parce qu'en fait, ben c'est ça, c'est les congés mat où toi, t'es à la maison en train de gérer ton gosse et l'autre a l'impression que c'est la belle vie. Et il rentre et t'as juste envie de lui dire, ben ça va, t'étais tranquille au boulot. Et on ne peut pas se comprendre. Quand on parle ce langage-là, on ne peut pas se comprendre.
Donc on décide pas trop vite de se quitter.
Okay. Bah surtout quand on est fatigué, on prend
pas
de
décision. Les gens en fait rendent responsables leur couple de tout leur malheur.
Mais oui.
En fait, quand moi je fais les couples, je leur dis bon, allez, partez une semaine à Fontainebleau, pas loin forcément. Et en fait, ils disent, ah ben en fait, on est toujours amoureux. Je dis, mais bien sûr, c'est les circonstances de vie
oui.
qui font que vous êtes sous l'eau et que vous ne pouvez plus vous saquer. Mais en fait bien sûr, vous aimez.
Le meilleur conseil c'est aux proches de jeunes parents, c'est proposer de garder une nuit le bébé dès qu'il a, je ne sais pas, 3-4 mois. Et puis comme ça, on va passer une nuit folle à Fontainebleau.
Ah, mais même un repas le midi pendant que les enfants sont gardés.
Mais même une sieste.
Mais n'importe quoi. Il y a encore une souris qui vient de passer. C'est incroyable.
Mais c'est sans doute la même, non?
Non, je pense pas parce qu'il y en a une autre là-bas.
Ah oui, il y en a deux. Mais qu'est-ce qui se passe? Elle veut écouter tous nos conseils sur le postpartum. Bon, troisième sujet. Dans un instant, on parle non plus du couple du postpartum. Ah ben, la souris se déplace partout. Il y en a partout. Dans un instant, on parle de la place des écrans pour les enfants, mais aussi pour nous les parents. Vous allez comprendre.
Votre fils a été surpris en flagrant délit d'envoi de SMS en cours, Madame Poulet.
C'est que ça?
Non, pardon, mais parce que nous, on a cru qu'il se droguait. Mais...
Bon, on continue ce club des experts. Tiens, je me suis dit, on l'appelle comme ça, non?
Ouais, c'est un sympa. Peu
des experts, tous carrément. Les trois.
Pour parler de la parentalité. Sujet proposé par Marie. Enfin, non, je crois que c'est moi qui vous ai dit. Ouais, Marie, tu veux pas parler d'un...
C'est un petit peu autoritaire, ouais, vrai, comme je vous aime bien, j'ai dit oui.
Bon, donc sujet proposé par Marie. La place des écrans, aussi bien dans les familles, en fait, aussi bien des enfants que des parents. Qu'est-ce que vous vouliez nous dire à ce propos, Marie, vous qui avez choisi ce sujet?
Alors du coup, comme je l'ai choisi, pas vraiment parce que c'était quelque chose...
Je sais que c'est un sujet qui t'est cher.
Oui, ça m'est cher parce qu'en fait, je pense qu'on ne se rend pas compte des dégâts. Je pense qu'en plus, en tout cas de manière tout à fait personnelle, je suis pas une grande utilisatrice des écrans, mais déjà trop. Et on se rend pas compte des dégâts que ça peut vraiment causer sur les gamins. Quand je vois des gamins avec des écrans dans les poussettes, en fait, c'est pas possible. Et on alerte énormément les gens là-dessus. Et je pense qu'on doit être très très vigilants nous-mêmes. Parce que ça provoque. Alors, et on parlait en début de podcast de justement cette exposition à tous ces gens qui font mieux que nous. Il y a ça déjà. Il y a l'état dans lequel ça nous met d'être sur Instagram, de voir les maisons propres, les machins, les bidules. Bon, bah, soit. Et il y a aussi l'image qu'on renvoie à nos enfants d'être tout le temps sur nos téléphones. Il y a une chanson d'Aldebert hein, sur Écran, rendez-nous nos parents.
Écran, rendez-nous nos parents. Lâche-la, la pomme, merci. Ça leur fera des vacances. Écran. Les bons chez nos parents. Coupez-leur donc le wifi, on fera connaissance.
Force est de constater que c'est devenu un outil très compliqué à gérer en famille. Et plus les enfants vont grandir, plus ça va être compliqué. Et en même temps, c'est une chance parce que plus les enfants vont grandir, plus il va falloir qu'on agisse là-dessus. Ce que je voulais dire, c'est que pour moi, l'écran est un domaine de l'éducation parentale. C'est pas un loisir, c'est pas un outil, ça fait partie de l'éducation. Nous, on l'a pas eu cette éducation-là parce qu'on n'avait pas d'écran quand on avait 10 ans. Je crois qu'il faut qu'on prenne le problème à bras-le-corps et se dire, en fait, on va être coercitif dans l'utilisation des écrans au début. Comme on le sera avec un gamin qui veut traverser la rue, comme on le sera avec un gamin qui va se mettre en danger, on va faire chier, on va dire non, il va falloir tenir le coup.
Toi, tu tiens là avec tes
enfants?
Moi, je tiens. Redis-nous l'âge de tes enfants.
Ils ont 8, 10, 12, 14.
Et 12 et 14, ça doit être... Là, t'es dans le dur, là, déjà, sur le sujet.
Oui, mais en fait, je me rends compte, et c'est mon petit partage d'expérience du jour, que si tu tiens le coup, quand ils sont mômes, ça devient pas une habitude de vie.
Il faut un cadre.
Et en fait, mes gamins, quand ils rentrent de l'école, ils ouvrent un bouquin. Et alors, je dis pas ça, genre, ah, génial, et là, je fous de la pression à tout le monde. C'est pas ça, mais ça, j'en ai chié. En fait, pour obtenir ça, c'est-à-dire que je me suis battue, j'ai eu des conflits. Et pourquoi nous, on n'a pas le droit de jouer et tous les potes ont le droit de jouer tout le temps? J'ai pas interdit les écrans à la maison, hein, que les choses soient bien claires. Ils ont le droit de jouer, ils ont le droit de jouer à Fortnite, en veux-tu, en voilà. Ouais. Mais il y a un espèce de cadre, il faut tenir bon. Mais comme les Terrible Two, il faut choisir ses combats.
Ouais.
En fait,
si t'es convaincu aussi de bien fonder de ce que tu fais, ce qu'imagine toi et ton cas, c'est aussi plus simple de l'assumer. Parce que c'est vrai que nos enfants nous disent, mais un tel, il joue 3 heures par soir à Fortnite.
Mais en fait, ça fait partie, je pense qu'il faut voir le besoin de l'enfant. C'est-à-dire que ton gamin, dans la journée, sur 24 heures, il peut pas faire 4 heures d'écran. Parce qu'en fait, si tu fais un camembert, tu vas voir que si tu prends 4 heures d'écran, c'est du sommeil en moins, du loisir en moins, du sport en moins, etc. Il faut considérer vraiment que le temps d'écran, il est nécessaire dans une journée parce qu'il faut vivre avec son temps. En revanche, il faut pas que ça prenne le pas sur des choses qui sont nécessaires à son développement. Et c'est en ça que je veux dire que, pour moi, ça doit faire partie de l'éducation. Et c'est trop considéré comme un loisir, comme tiens, je peux pas m'en occuper, prends un téléphone, ça l'occupera. Non, en fait, ça fait partie de leur vie, comme apprendre à lire, apprendre à faire du vélo, apprendre à utiliser les écrans. C'est tout ce que je voulais dire.
Et tiens, toi qui as grosse communauté sur les réseaux sociaux, etc., t'arrives toi à couper? Je sais pas, moi, le soir à table, tu t'es fixé des règles toi-même? Parce qu'il faut donner l'exemple, nous, en tant que parents.
Moi, je ne touche plus mon téléphone quand je suis rentrée chez moi. C'est-à-dire qu'il va dans la. On a une boîte à l'entrée, je le pose, je le reprends pour checker un truc une fois que les enfants sont couchés, mais j'ai désinstallé toutes les applis. Quasiment de réseaux sociaux. Toutes les applis de vente privée, ça, c'était ma petite addiction personnelle.
C'est vrai qu'au début où on bossait ensemble,
j'étais tout le temps sur toutes les ventes privées. Mais, ça m'a fait vachement de bien. Après, c'est la quarantaine, hein, ça,
et
probablement.
Et t'as plus Instagram, tout ça, sur ton
téléphone?
J'ai
plus que Instagram.
Ok. Et t'as plus le reste?
Non, parce que je partage les chroniques, les machins, les bidules. Mais en fait, eh ben, finalement, croyez-moi qu'on se porte bien mieux quand on ne sait pas comment font les autres. Non, mais c'est vrai.
Effectivement.
On leur demande comment ils ont passé un week-end plutôt que de dire « Ah bah oui, j'ai vu que t'étais en balade sur ton Insta. »
Mais c'est vrai que ça donne des conversations particulières aujourd'hui. Ouais. « Ah, j'ai vu que t'avais fait ci. »
Après, je suis un peu vieille conne à dire ça, hein, je m'en excuse. Mais finalement, je pense que il y a un moment, il faut prendre du recul et se forcer, comme quand on arrête de cloper ou de se ronger les ongles.
Arnaud, vaste sujet, j'imagine, avec vos patients. Vous envoyez-vous aussi des tout petits confrontés aux écrans?
Alors, dans la salle d'attente, ça
je précise que Marie nous quitte.
Dans la salle d'attente. Marie, c'était un bonheur de te voir.
Il est midi.
Je vous embrasse, j'ai un train.
Rate pas ton train.
Allez, et c'est la joie du podcast. C'est un train. Bon courage pour le train, tout
bon
ça.
Bon retour.
Ça. C'était un plaisir. La souris n'est pas de retour, non? La souris n'est pas là?
La souris n'est pas là. Les écrans,
ouais, les écrans.
C'est... Alors, moi, je remercie Serge Tisseron, qui est pédopsychiatre et qui a
théorisé les 3-6-9-12, là.
Les 3-6-9-12, et qui a beaucoup apporté. C'était il y a une dizaine d'années, et les choses évoluent. On a les travaux de recherche des neurosciences qui nous montrent l'impact des enfants de moins de 3 ans. C'est zéro écran avant 3 ans. Et pourquoi? Parce qu'il y a un impact sur le développement cognitif. Ce sont des enfants qui ne sont pas dans l'interaction. Ils ont besoin d'interagir constamment. Voir les lèvres, voir la personne qui parle en face, voir comment elle prend l'objet, comment elle le pose, comment réagissent les adultes quand eux-mêmes font tomber quelque chose. C'est constant. L'enfant ne peut pas grandir, ne peut pas se construire s'il est pollué par des écrans.
Et toi, si tu compares, par exemple, je ne sais pas, un enfant qui a 3 ans qui est confronté aux écrans et un autre, pas du tout. Toi, tu vois déjà une différence?
Ah oui, et je le vois, par exemple, quand je commence la consultation. Un enfant qui a 2 ans, 2 ans et demi, est déjà habitué à avoir le smartphone dans la voiture pour que les parents aient la paix, dans le train, dans la salle d'attente chez le médecin. Vous comprenez, docteur? Comme ça, il ne pleure pas. Ah oui, à propos, docteur, on vient vous voir parce qu'il a des troubles du sommeil.
Ah, tu m'étonnes.
Ou, vous savez, à la table, il ne veut pas aller à table. Il ne veut que jouer. Et là, tu te dis, bon... Là, on est déjà très tard, très tard. Et il y a des gens qui se rendent pas compte. Alors après, petit à petit, et comme le disait Marie, c'est vrai, les écrans, alors on parle tout écran, parce que, ah oui, mais docteur, il n'y a pas d'écran à la maison, il y a juste la télé. Je dis, mais la télé, c'est quoi? Ah ben non, mais il n'a pas le smartphone, on ne lui donne pas. Oui, mais la télé, c'est quoi? Ah oui, vous avez raison, c'est un écran. Mais on lui met le dos à la télé pendant que nous, on regarde. Je dis, vous vous rendez compte? On va faire une expérience. Je vais tourner mon fauteuil et je vais vous parler sans vous regarder. Vous allez me dire si vous appréciez. Et voilà, c'est ça. Donc, il y a vraiment un rôle pour faire comprendre. Et comme ça fait partie de notre vie, souvent les parents ont le smartphone qui reste allumé pendant le repas, il faut l'éteindre. Comme disait Marie, il faut le poser quelque part. Et l'enfant, finalement, en grandissant, il a un modèle, il a des exemples, c'est les parents. Et si, et comme le disait également Marie avant, le gros problème, c'est l'atterrissage du gros jumbo jet à l'adolescence. Si le boulot n'a pas été fait en amont, c'est trop tard. Le gamin qui négocie, qui se trépigne parce qu'il a 12 ans ou 11 ans et il veut absolument un smartphone dernier cri, ou il a 9 ans, il veut un smartphone dernier cri comme les copains à l'école, et qu'il va bouder à cause de ça, ça veut dire que le travail n'a pas été fait en amont. Il faut faire confiance à l'enfant, il faut l'écouter, il faut le voir progresser, parce que les besoins d'un enfant de 9 ans ne sont pas ceux d'un 6 ans et ne sont pas ceux d'un 5 ans. Il faut le faire parler, lui demander son avis, et faire établir un peu des contrats, mais aussi en même temps donner l'exemple, c'est important.
Et le moyenne d'âge du premier smartphone, c'est 9 ans.
La moyenne d'âge, c'est 9 ans.
C'est quand même très tôt.
Ou du téléphone. C'est pas forcément un smartphone avec un écran. Ça peut être pour des raisons pratiques, parce que l'enfant rentre tout seul de l'école. Le parent va être content de savoir que un petit SMS.
Il envoie un petit SMS.
Voilà,
mais
pour
quand
dire
ça
je suis rentré à la maison.
C'est la porte ouverte.
Quand ça devient un smartphone, ça devient la porte ouverte, parce qu'il y a l'accès au réseau, à Internet. Il faut le faire. Il faut pas fermer à l'enfant l'accès Internet, surtout pas. Mais il faut le faire avec lui au début, lui montrer. Et si on pense qu'il a vu des images dangereuses, pornographique ou autre, du cyberharcèlement, c'est un vrai sujet au collège, eh bien, il faut lui donner le micro en lui disant « Tiens, moi, aujourd'hui, j'ai vu des images qui m'ont choqué. » Voilà comment on lance le débat. Et pas dire « Est-ce que toi, tu as vu des images ?» Non, « Ah, moi, j'ai été choqué aujourd'hui, j'ai vu des images sur Internet. Waouh, ça m'a fait quelque chose. » Et l'enfant, il va entendre ça. Et après, il va rebondir, on lui donne le micro. Et peut-être qu'il va en profiter pour dire ce que lui a vu.
Mmh. Anna, on peut rappeler l'âge de tes fils ?
3 et 5.
Et alors, on est comment vis-à-vis des écrans?
Moi, à la décharge des parents, c'est pour on a tellement... Les gens sont très durs avec les enfants dans l'espace public. Dans un train ou dans la salle d'attente, c'est vrai que souvent, les gens nous font des réflexions tellement désagréables que c'est vrai que les gens dégainent des fois leur dessin animé, mais parce qu'ils ont honte du bruit qu'ils font et donc des réactions qu'ils vont subir. Pour en avoir subi beaucoup des réactions comme ça, c'est vrai que ça m'est arrivé dans le train de mettre ça pour pas me faire engueuler, quoi, ou pour pas déranger les autres. Parce que les enfants sont mal vus dans l'espace public, je trouve, globalement.
Après, il y a une différence entre leur donner un smartphone dans le train quand ils ont 5 ans, pour qu'ils regardent un dessin animé tranquille, c'est et juste... que ça devienne une règle de vie et d'éducation.
Oui, tout à fait, mais c'est pour dire que des fois, on y est contraint malgré nous aussi. Mmh. Et puis aussi, des fois, les gens sont acculés par des vies difficiles, enfin, ils s'en sortent pas, quoi. Donc, c'est une solution palliative parce que... ils ne peuvent pas mettre tout en place parce qu'ils ne sont pas suffisamment aidés. Moi, je trouve que les familles, franchement, ne sont pas assez aidées. On n'aide pas assez les familles. Franchement, je trouve que les gens sont dans des situations difficiles. Quand les deux parents bossent, franchement, je ne sais même pas comment ils font parfois pour encaisser tout ce qu'ils ont à faire.
Sans même parler des confinements, ou là, les écrans...
Oui, c'est ça. Non, mais c'est ça.
Les deux parents à la maison, devant des écrans, scotchés devant les écrans, et qui vont donner un écran à l'enfant pour avoir la paix, parce qu'il faut absolument
mais
faire la
réunion. Mais malheureusement, comment pouvait-il faire autrement?
C'est très dur. Alors, il y a des délégations de tâches, il faut se faire accompagner, il peut y avoir le voisin, il y a des systèmes D. Il y a des choses qu'on peut faire, mais c'est vrai qu'il ne faut pas baisser les bras.
C'est
compliqué.
Pendant le confinement, il n'y avait pas les voisins, les grands-parents, etc.
Du coup, on a peut-être pris
de mauvaises habitudes
en tout cas,
à ce moment-là.
Non, mais il faut penser que c'est un combat qui en vaut la peine. Je ne dis pas que c'est facile, c'est même hyper difficile, j'en suis le témoin vivant. Mais en même temps, c'est un combat nécessaire et...
Et important de souligner. Alors Arnaud parlait d'un truc juste, c'est si les enfants de, je sais pas, 10, 11, 12 ans sont confrontés typiquement à des images porno. Et alors j'en viens, c'est un peu un grand écart, mais au livre que toi tu viens d'écrire sur les règles.
Oui.
C'est un peu le lien, mais en fait il existe. Il y a besoin d'une pédagogie en ce moment vis-à-vis de nos enfants encore à 10 ans, adolescents, sur ces sujets. Ça va du corps au consentement, à la sexualité, etc. Et j'ai l'impression que ton livre arrive tout pile au bon moment, mais on a reçu dans la Maison des Maternelles récemment des auteurs, des autrices sur ces sujets. J'ai l'impression que la parole se libère pour les enfants et les ados. Est-ce que tu fais aussi ce constat-là, qui va donc à l'encontre de l'auto-éducation sur les réseaux sociaux? Est-ce qu'il y a un mouvement qui est fait pour parler de ces sujets qui étaient tabous encore il n'y a pas longtemps avec nos enfants? La question est très longue.
Il y a de plus en plus de gens qui parlent de ces sujets-là. La question est de savoir comment on parle de ces sujets-là. Moi, je trouve qu'il faut, ça c'est mon point de vue à moi, je trouve qu'il faut les aborder de façon extrêmement simple et pas considérer que les enfants sont bêtes. C'est-à-dire se garder du gna-gna-gna-gna, les enfants, en tout
du
cas...
Du kiki, entre du zizi, gna-gna-gnou, du machin. Gna-gna.
Non, je crois qu'il faut appeler un chat. Les règles, c'est un écoulement sanguin, et c'est pas la peine de dire que c'est une fleur qui s'ouvre. Je trouve que souvent, la littérature à ce propos est assez lourde. Donc moi, je fais partie de ces gens qui pensent qu'il faut s'exprimer simplement et considérer que les enfants et les adolescents sont très intelligents. Ce qu'ils sont d'ailleurs.
Et alors, il faut dire aux parents, dépasser les hontes qui sont les vôtres ou les peurs qui sont les vôtres pour parler, pour ne pas justement laisser au smartphone une éducation sexuelle.
C'est pour ça qu'un bouquin, ça peut être un objet, c'est-à-dire ça se laisse traîner. Vous n'êtes pas obligé de dire « Ah, je t'ai acheté un bouquin sur les règles ». Non, vous l'achetez ou vous le... Et puis vous le mettez dans la salle de bain,
Et alors, qu'est-ce que tu veux dire, toi, aux petites filles sur les règles?
Petites filles et aux petits garçons.
Putain, mais pourquoi je fais que de limiter ce sujet aux filles?
Mais parce que justement, c'est de là où vient le tabou. C'est qu'il y a pourquoi en faire toute une histoire de cet écoulement sanguin? Il n'y a pas d'histoire à en faire. Il y a à savoir, moi je trouve ça très important de savoir que ça fait pas mal d'avoir ces règles. Il faut démonter un certain nombre d'idées reçues qu'il est bon d'avoir en tête pour les jeunes filles.
Et les garçons.
Et pour les garçons, évidemment. Mais ça, c'est vraiment important. Il faut en faire un sujet normal, quoi.
Arnaud, vous avez des enfants, vous, qui vous posent des questions sur.
Alors, les enfants ont toujours un peu peur d'en parler.
Ouais. Même au pédiatre.
Ils ont peur. Même si on fait sortir la maman, tout ça, ils ont peur. Alors, on a des petits moyens faciles pour quand on examine une fille ou un garçon, en disant, t'as vu que ton corps, il change, non? Ça te fait peur ou qu'est-ce que t'en penses? Puis là, c'est toujours le regard qui va vers le père ou la mère. Voilà. En disant, ça c'est du lourd, on m'avait pas dit qu'on allait parler de ça aujourd'hui.
Ça sent le traquenard.
Ça sent le traquenard. Et je lui dis, tu sais, sois en confiance. Alors, faut pas dire... On est tous passés par là. Ah non, alors le gamin de 10 ans, 9 ans, 12 ans, il a surtout pas envie d'entendre ça. Mais il a envie de voir qu'il est valorisé, que c'est... Voilà. Et je lui dis, tiens, allez, au hasard, tu tires. Tu sais les règles, ce que c'est chez une fille ou... Allez, on va tirer, on va faire un jeu de cartes. Juste pour voir. Voir s'il est dans le truc. Et en fait, ils sont demandeurs. Et on le voit à telle enseigne qu'aujourd'hui, les ados, les pré-ados, là où ils vont, c'est sur les réseaux sociaux. Pour savoir comment fonctionnent les règles, comment est-ce que les premiers rapports, ça va être douloureux, est-ce que mon acné va disparaître parce que je vais avoir des rapports sexuels, est-ce que les règles vont faire diminuer l'acné. C'est complètement sur les réseaux sociaux. Et
on lit tout et n'importe quoi. Alors,
où il y a tout et n'importe quoi. Alors, il y a des blogs, des réseaux qui sont bien faits, mais... Du coup, c'est pas véritablement partagé. C'est une information qui est un peu délivrée comme ça. Alors, le jeune va écrire ou pas. Et les parents sont un peu chintés. Et c'est très difficile. Dans toutes les générations, ça a toujours été très difficile, le rôle des parents pour l'éducation sexuelle, pour le rôle des règles. Et moi, je suis d'accord avec Anna. Il faut en parler aux garçons comme aux filles des règles. Parce que c'est trop bête. Un gamin qui a 13 ans se dit « Ah, les règles, c'est quoi ?» Ou à 15 ans ou à 16 ans, il va avoir une fille, une copine, il ne sait pas ce que c'est. Et un exemple typique, depuis cette année, depuis septembre, on fait le vaccin contre le cancer du col de l'utérus aux garçons et aux filles. Et ça, c'est pour nous un outil très utile qui nous permet, à partir de 11 ans, de se connecter sur le garçon pour lui dire, tu sais, on va te faire le vaccin contre le cancer du col de l'utérus. Et je le regarde dans les yeux.
Et là, il bug, non?
Et là, il bug complètement.
Mais attendez, docteur, et je lui dis, pas d'utérus.
Utérus. Ça te parle? Et là, il bug encore plus. Et... Ah oui, tiens. Ah oui, j'ai pas d'utérus. Ah. Et tu sais pourquoi on te le fait? Et là, on fait un petit bavardage.
Ils doivent se
et
marrer,
on peut passer plein d'informations.
Ils doivent bien vous aimer, je pense. Vos
ah oui, mais parce qu'on le fait façon puzzle.
Ouais, façon puzzle.
On fait voilà tranquille, détendu, et ils sont contents parce qu'ils ont une bonne information délivrée. Et en fait, voilà, c'est comme ça qu'il faut.
C'est le professeur Israël Nizan qu'on a déjà reçu plusieurs fois et lui qui s'alarme de voir des adolescents qui font toute leur éducation sexuelle par la pornographie,
oui. Ah oui,
avec les conséquences dramatiques sur la place de la femme notamment, mais il n'y a pas que ça.
Ah
mais...
oui.
Et les premières. Oui. Et lui disait des choses hyper crues que des ados de 12-13 ans font déjà, alors que ce sont des choses qu'on voit dans les films porno.
Moi j'ai des gamines, alors c'est rare, il faut vraiment qu'elles soient en hyper confiance. Enfin, quand je dis des gamines, elles ont 16-17, qui continuent de venir me voir, et parfois je sens qu'il y a un malaise ou quelque chose, je les mets un peu en confiance. Ça marche quand je les connais depuis qu'elles sont toutes petites. Elles sont en confiance. Alors il y en a certaines qui me disent « Mais c'est terrible parce que mon copain me demande de faire des trucs qu'il a vus sur Internet. » Et c'est ça le problème. C'est que pour les garçons, mais aussi pour certaines filles, les positions, les relations sexuelles, il y a des choses qui sont montrées qui ne sont pas la réalité. C'est pas la vraie vie. Et du coup, il y a des garçons.
Parler de la place des femmes dans les relations sexuelles, qui sont quand même souvent humiliées.
Oui, ça finit. Ils sont souvent humiliés.
Ce que lui disait, c'est que ça finit systématiquement en éjaculation faciale. Chacun fait ce qu'il veut, c'est mais ça. Quand on a 13 ou 14 ans, c'est peut-être pas l'idéal de dire aux filles, ça se finit systématiquement comme ça.
C'est difficile d'en parler à 12-13 ans.
Ouais.
Mais il faut faire comprendre à l'enfant de cet âge-là, qu'il y a des images qu'il peut voir, qui vont le choquer, comme ça choque tout le monde. Et qu'il faut qu'il trouve quelqu'un, ça peut être le parent, mais en général, le parent, c'est relou, on n'a pas envie, ça peut être le pédiatre. Et il faut tendre ces perches-là. Et souvent, ils ne le font pas. Et ils restent dans la nuit, finalement, avec leurs images qui les ont énormément choqués, et c'est 6 mois, 1 an, 2 ans, ou 20 ans après. C'est ça, le sujet. Que ça va ressortir.
Non, mais c'est fou, parce que les jeunes femmes et les jeunes hommes s'imaginent parfois que faire l'amour, c'est il faut qu'il y ait une espèce de checklist qui soit cochée avec pipe, cunilingus, lalali, lalala. Enfin, ils ont une checklist sans laquelle on n'a pas fait l'amour. Enfin, c'est de la merde ce qu'on a fait, de toute façon. Et c'est hallucinant. Moi, je vois des femmes très jeunes qui me disent des trucs, mais ça me paraît lunaire. Et c'est pas consenti, je peux le dire, c'est pas consenti. Elles savent même pas ce qu'elles font, en fait.
Ah, alors il y a une éducation au consentement là qui est à faire.
Ouais, absolument.
Auprès des garçons et des filles, d'ailleurs. Auprès des garçons et des filles. Bon, et ben vaste sujet dont on pourra continuer de parler. J'adore, on parle de la place des écrans et on en arrive au consentement. C'est bien, c'est important. Allez, le prochain sujet nous a été suggéré par le docteur Arnaud Pfersdorf. Dernière partie du podcast de La mort qui tue, le podcast des experts. Bon, Marie-Père Arnaud s'est barrée parce qu'elle avait un train. Je vous explique si vous avez raté le début. Enfin non, vous l'avez pas raté, c'est un podcast. Mais bon, toujours est-il qu'il y a des souris qui se promènent un peu partout autour de nous. Et on est avec Arnaud Pfersdorf et Anna Roy. Arnaud, quand je vous ai proposé de faire ce podcast, vous m'avez proposé, suggéré que l'on parle, je vous cite, du quatre pattes, des premiers pas et de la propreté. Je vous écoute.
En fait, l'autonomisation. Le grand message que nous, pédiatres, maintenant, et tous les professionnels de la santé sur lesquels nous insistons, c'est autonomiser son enfant. Autonomiser, ça veut dire lui faire confiance. Du coup, ça veut dire qu'il va mieux grandir, en confiance, meilleure estime de soi. Et du coup, ça donnera un adulte, plus tard, qui sera stable dans sa vie professionnelle et dans sa vie affective. Et ça commence dès la naissance. On en parlait tout à l'heure, l'exemple du bébé qu'on met sur le ventre. L'exemple du bébé avec les réflexes archaïques, les réflexes primitifs, les points cardinaux. Quand on touche la lèvre, il va tourner la tête du côté où on stimule pour aller chercher le mamelon ou chercher le biberon. On ne va pas forcément lui mettre tout de suite le mamelon en face dans la bouche. ou la tétine. On peut la mettre un peu de travers, il tourne la tête, ah voilà, il cherche, il s'autonomise, il apprend. Grâce à ses sens, parce que les sens, c'est quelque chose d'extrêmement important chez le nouveau-né et chez le nourrisson, et c'est grâce aux sens qu'il va interagir, découvrir qu'il est une personne à part entière, ça sera vers l'âge de 7-8 mois, et du coup s'autonomiser. Et le problème, c'est qu'en tant que parent, on ne voit pas toujours son enfant grandir, on ne voit pas toujours les progrès qu'il fait. Les seuls progrès qu'on voit, c'est quoi ? Ah ben, il se retourne, il tient assis, ah, puis il marche. Mais il y a tout ce qu'il y a eu avant. Il y a eu la maîtrise de la main, l'ouverture de la main, la prise de l'objet pour passer dans l'autre main. Tout ça, ça va aider au retournement. Ça va aider ensuite aux quatre pattes. Par exemple, quand je dis aux parents, vous savez que le quatre pattes, j'ai eu le cas hier ou avant-hier de parents qui étaient au cabinet, en me disant, oh, mais c'est top, il se met debout, on le tient par les bras. Est-ce que c'est pas gênant, docteur, de faire ça? Alors, j'étais content qu'ils posent la question. Et je leur dis, il vaut mieux éviter. C'est des choses qu'on ne faisait pas il y a 20 ans. Maintenant, on laisse faire l'enfant, la motricité active. Il va se mettre debout le long d'un canapé. C'est lui qui va faire, il va prendre confiance. Il est dans la motricité active. Et si vous le tenez par les mains, il ne passera peut-être pas par le quatre pattes. Et s'il ne passe pas par le quatre pattes, eh ben, ça n'a l'air de rien. Ça peut avoir un impact sur son écriture plus tard. Et il peut faire de la dyspraxie, de la dysorthographie. Ah bon ? Ben, le quatre pattes, c'est le mouvement opposé entre le bras avant gauche et la jambe arrière droite. Je lance la main. À un moment donné, pendant un millième de seconde, je tiens uniquement grâce à une main et à un pied, et je bascule le reste. Et je vais poser la main, mais pour la poser, je vais ouvrir la main. Le poing est fermé et j'ouvre la main. Et donc, en ouvrant la main, je prends le stylo, je lâche le stylo, je prends le stylo, je rache le stylo. C'est une prise de confiance, maîtrise dans la main, motricité fine. Il y a plein de choses comme ça qui existent et qu'on ne voit pas forcément en tant que parent.
Et vous avez dit prise de conscience. Les aider à aller vers l'autonomie, est-ce qu'on peut imaginer que ça va faire d'eux des petits bébés qui ont confiance en eux ?
Oui. Absolument.
Et puis plus tard, des enfants qui auront confiance en
eux. C'est complètement ça. On fait confiance à l'enfant, à toutes ces étapes de maîtrise, et non pas, moi, parent, ah ben il n'est pas encore propre, docteur. Ah ben il ne marche pas encore. Il va y avoir la rentrée scolaire, il a encore la couche.
Il y a des parents qui se mettent une pression incroyable sur la propreté.
Beaucoup de pression. Alors, il faut, nous, on leur rappelle, mais vous savez, chaque enfant a son propre rythme. Et puis parfois, c'est quand on met justement trop de pression qu'après, il y a un retour en arrière. Et dans le cadre de l'acquisition de la propreté, la maîtrise des sphincters, on le sait, il y a des enfants qui font des neurésies secondaires parce qu'il y a trop de pression.
C'est-à-dire
la
ça
part
revient,
des grands-parents, des parents ou autres. Et pour nous, c'est un véritable sujet de consultation. Donc, faire confiance à son enfant. Un exemple tout bête. L'enfant qui a échappé à la vigilance pendant quelques instants et qu'on retrouve à 6 mois, 8 mois, en train de vouloir monter à quatre pattes le long de l'escalier. Horreur. Le stress. Le hurlement, le parent, horreur, il va tomber. Et du coup, c'est le hurlement du parent qui va faire peur à l'enfant, il va perdre confiance. Et ça, ça va rester ancré dans son cerveau. Alors qu'on le surprend à faire ça, le mieux, c'est de dire quoi ? Tu veux monter ?
Vas-y, je t'accompagne.
Je suis derrière toi, je t'accompagne. Et on laisse tomber ce qu'on était en train de faire.
Je crois que c'est Maria Montessori, je crois qu'elle disait exactement ça sur les escaliers.
Mais bien sûr.
Pas de barrière.
Mais pas de barrière. Et c'est vrai que tout ça, on ne le faisait pas. Et elle a été un précurseur, mais il faut qu'on se le rappelle en permanence pour tous les gestes de la vie courante de l'enfant. Je veux prendre la fourchette, je veux prendre les objets avec la main, je veux diversifier mon alimentation
alors,
en faisant de la DME.
C'est le même sujet.
Mais c'est le même sujet. Prendre confiance. La DME, c'est rien d'autre que faire confiance à son enfant pour qu'il prenne confiance en lui, qu'il développe une bonne estime de soi. C'est ça la DME, la diversification menée par l'enfant. Bien entendu, à condition que le pédiatre donne le feu vert, ça ne se fait pas avant tel et tel âge, avec tel type d'aliment.
Mais ça ne se fait pas tout seul.
Mais ça ne se fait pas tout seul, on est bien accompagné. Mais c'est un exemple type, et je vois des parents parfois qui me disent oh, « Docteur, j'ai peur qu'il s'étouffe ». Ben voilà, le père a peur, la mère a peur, c'est une peur des parents, j'ai peur qu'il tombe en faisant du vélo, donc je le tiens, je mets les petits trous. Il n'y a pas forcément besoin des petits trous. On fait confiance à l'enfant, il faut qu'il tombe. Et c'est en tombant finalement qu'il va prendre confiance et qu'il va aller plus loin.
Moi j'ai acheté des petits trous pour mettre sur le vélo de mon fils qui a 3 ans et j'arrive pas à les mettre. Je suis tellement peu bricoleur.
Faire la draisienne.
J'arrive pas à les fixer. Bah du coup il se débrouille.
Et après il y a pas besoin de roues.
Non mais j'aimerais bien savoir juste le faire. Vous savez qu'il puisse dire ah mon papa il m'a mis des roues. Bah non.
Ah bah voilà.
Anna, est-ce que dans les tout jeunes parents que vous aussi vous voyez ceux qui sont flippés comme ça ou ceux qui où vous sentez que ce sera pas un problème ces sujets-là ? Dès le début on voit ces différences ?
Oui non mais il y en a aussi qui changent de trajectoire avec leur enfant. Hein.
Oui, c'est ça.
Enfin, tout n'est pas fixé dans le marbre.
On peut être stressé au début et puis
Mais bien sûr, être très détendu après ou très détendu au début et très stressé après. Non, je ne crois pas qu'il y ait de règles.
Vous entendez le bruit ? Ça veut dire que la souris est de retour, j'imagine. Et donc, ça veut dire qu'on va, on va arrêter. Hein ? Il est l'heure d'aller chasser cette souris. Même si moi, j'aime beaucoup les petites souris. Merci beaucoup, Anna.
Merci, Benjamin.
Merci beaucoup, Arnaud. On redit le nom de vos deux livres.
Attends, merci, Benjamin.
Je les suis notés. Mais...
C'était très sympa de se retrouver tous. Parce qu'on se retrouve tous pas assez souvent.
Ouais, je suis d'accord. Et vous, vous ne voyez jamais, en fait.
On ne se voit plus.
Non, on ne se voit quasiment
plus. On s'appelle, on se fait des visios et tout, mais on se voit plus.
Et puis, sans
Agathe. On décrit, on fait des choses ensemble.
Sans Agathe, elle est quand même mieux.
Non, ça, c'est pas vrai.
C'est pas vrai.
Non.
Ah non, Agathe.
Ah non, Agathe, ça, c'est mon chouchou d'amour.
Bien sûr. La vie rêvée du postpartum, c'est votre dernier livre, Anna Roy. C'est chez Larousse. Et les règles pour les petites filles et les petits garçons, ça s'appelle
Tout sur les règles aux éditions Flammarion.
Et quant à vous, Arnaud, votre enfant de 0 à 16 ans, c'est chez Attier. Tiens, précisons que le 13 novembre, vous serez en dédicace au Salon du Livre de Rouen.
Ouais.
Pour ce livre, pour les gens qui nous écoutent depuis Rouen.
Ouais.
Et ça va être trop bien parce que je serai là aussi.
Ah oui, on sera là tous les deux, ça va être
on sera là
top.
Tous les deux et
ça
je crois même qu'on va, que vous allez animer une conférence là-bas à Rouen.
Oui. Oui.
À 14h ou 15h.
Et je crois bien que je vais le faire avec quelqu'un qui s'appelle Benjamin.
On verra. On verra de quoi on parle. Merci beaucoup à tous les deux. Merci beaucoup à Alexandre Ferreira au montage. Merci à Irina Pascal et Nicolas Frémont pour les réseaux sociaux. Et merci à nos enfants qui nous inspirent toutes ces discussions. Ciao tout le monde.